Celui qui croira en moi et qui sera baptisé sera sauvé. Il y a donc la notion de croire avant d'être baptisé. Et donc, nous appelons ce type de baptême un baptême de professant parce qu'on professe sa foi. D'ailleurs, les trois baptisés aujourd'hui vont témoigner, vont dire pourquoi ils se font baptiser. Voilà, donc on va faire ça. Pour Elisabeth, qui va être la première des baptisées, elle a été baptisée dans l'Église réformée, elle a fait sa confirmation, etc. Et donc, parfois, on parle plus, selon les personnes, d'une confirmation de baptême. C'était le cas pour une religieuse catholique qui était venue me demander à être baptisée par immersion. Voilà, et donc je l'ai envoyée demander l'autorisation à un prêtre et elle a eu cette autorisation. Et puis après elle, des dizaines d'autres. Notre baptême n'est pas un baptême protestant. Ça n'a pas de sens. Voilà, quand on est baptisé, c'est parce que les personnes veulent être disciples du Christ, mais pas forcément protestants, cathos, machin, bidule. Voilà, j'allais dire, c'est pas une étiquette que l'on pose sur les personnes, parce que les personnes qui se font baptiser veulent vraiment marcher avec le Seigneur. C'est donc un engagement, et puis comme nous l'avons chanté, on dit au Seigneur, ben oui, Seigneur, viens et manifeste-toi dans mon cœur et dans ma vie. Donc ici, peut-être ce qui est aussi une particularité, c'est que nous demandons aux personnes qui se font baptiser par qui tu veux être accompagné. Et donc si la personne désignée, on trouve qu'elle tient la route, on dit à la personne, ben, tu accompagnes comme un peu un parrain ou une marraine. Tu accompagnes la personne dans l'étude du baptême, dans la prière, mais on demande aussi à la personne d'aller jusqu'au bout et de pratiquer elle-même le baptême. Ce qui fait que, alors ce n'est pas le cas aujourd'hui, mais il y a des hommes, il y a des femmes, il y a des jeunes et des moins jeunes qui, dans notre église, baptisent parce qu'ils ont accompagné certaines personnes au travers du baptême. Voilà. Donc moi, je vais baptiser Elisabeth. Je vais aller me changer. Parce que en fait, on avait décidé dès le départ, dans l'aménagement, on s'est dit, mais on va se mouiller avec les baptisés. Donc on a fait un baptistère un peu plus grand pour qu'on puisse être dedans. Alors on se mouille avec les baptisés.
Je ne manquerai, ô mon âme, chante mon âme. Pas à pas, il me conduit. Au bord des eaux calmes, je le suis. Ô mon âme, chante mon âme. Oui, toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face. Sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal, mon âme, tu ne craindras. Et dans son temps, je reviendrai, je reviendrai. Je traverse encore la vallée de l'ombre de la mort. Ô mon âme, chante mon âme. même le premier. Non, rien ne pourra me séparer. Son amour, et toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face, dans sa présence, tellement de joie. De joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal, mon âme, tu ne craindras. Et dans son temps, je reviendrai, je reviendrai. Sa maison j'habiterai. Oh mon âme, chante mon âme sans cesse jusqu'à son retour. Mon âme chante son amour tous les jours, oui tous les jours. Oui, toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face, dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal, mon âme, tu ne craindras. Et dans son temple, je reviendrai. Je reviendrai.
Bonjour. Alors, j'avais préparé un petit témoignage hyper court de 4 pages. Alors bon, comme j'ai 40 ans, j'écris gros, donc il n'y a pas grand-chose d'écrit quand même. Et puis, en fait, je pense que tout a été dit dans la chanson. Je vais quand même expliciter, mais... voilà, comme Bernard l'a dit, j'ai été baptisée bébé. C'était parce que je suis née dans une famille chrétienne, une maman catholique, un papa pasteur, et puis qu'à l'époque, il faisait encore des baptêmes de bébé. Donc, il m'a baptisée. Enfant, j'avais une foi d'enfant, hein, toute naturelle, toute simple. Et tout allait pour le mieux. À l'adolescence, on suit le chemin tracé par... son enfance, enfin surtout que moi j'avais fait l'adolescence assez tard, donc ma confirmation, j'étais pas encore adolescente, j'étais encore dans l'enfance, donc tout, voilà, pas de soucis. Et puis quand arrivent les soucis de l'adolescence et de l'âge adulte, on se dit oh là là, dis donc Dieu, t'es pas cool quand même à certains moments. Donc maintenant tu vas me foutre la paix, je vais passer mon chemin tranquille de mon côté sans toi. Voilà, donc j'étais assez fâchée. Ou des trucs qui sans doute étaient trois fois rien, mais qui quand on les vit, ça paraît assez monstrueux. Mais Dieu est bon et il est persévérant parce qu'il m'a pas lâché. J'ai même eu droit ici à un appel de Dieu transmis par Bernard auquel j'ai pas répondu très très poliment. Je vous passerai les termes. Parce que bon, on suivait les parents, hein, quand ils nous emmenaient au culte, on est au culte quand même, parce que même si j'étais très fâchée avec Dieu, je restais une gentille fille à son papa, en apparence. Voilà, après, c'est ce qui était dit, en fait, dans le chant, c'est-à-dire que, je ne trouve plus là, mais Dieu vient toujours nous chercher là où on est, et... quel que soit le temps que l'on met à revenir, il insiste. Oh, une fois adulte, je me suis un peu calmée, parce que quand même si j'étais fâchée contre Dieu, je savais que j'avais tort et que c'était pas sa faute, mais quand même, j'avais envie d'être fâchée, alors j'étais fâchée. Mais c'était pas pareil, c'était... Même si j'étais revenue au culte et que je priais, je sentais que, qu'il y avait une séparation qui s'était faite, et je savais pas comment enlever cette séparation. Et puis les années passant, beaucoup, en fait, à traverser toute la vie, même si les épreuves ne sont pas monstrueuses, elles paraissent de plus en plus monstrueuses, de plus en plus fatigantes. Et c'est vraiment ce qui est dit dans le chant, en fait. On a vraiment l'impression de traverser la vallée de l'ombre de la mort. À un point où on se dit que maintenant, on va falloir que ça s'arrête, parce que ça ne va pas pouvoir continuer longtemps comme ça. Et même si je savais que Dieu m'avait promis à moi des choses précises, j'attendais que les promesses se réalisent en me disant « c'est bien long, à un moment, je vais plus pouvoir attendre ». Et je ne sais pas si... je ne sais pas que j'étais pressée, mais quand même, à un moment... voilà. Et jusqu'à cet été, 2024, alors je ne sais pas si... est-ce que c'est Dieu qui attendait que je me bouge pour agir, ou est-ce que c'est lui qui m'a envoyé là-bas, mais j'ai été suivre une semaine de cours sur l'amour du Père en Bretagne. Et là, j'ai vraiment eu une révélation, j'ai pu expérimenter, ressentir l'immensité de l'amour de Dieu pour moi, pour chacun d'entre nous. Et j'ai compris ce qui m'éloignait de Dieu, en fait. Ce qui m'éloignait de Dieu, c'était toutes les fausses représentations que j'avais, toutes les mauvaises compréhensions de la Bible, tous les petits passages dans la Bible où on se dit tu es un Dieu exigeant, et puis si je dis oui, d'accord, je veux te suivre, tu vas m'envoyer où ? Moi, je ne vais pas quitter mes enfants, hein ? Pas question. Je suis maman, et puis j'aime pas les voyages, déjà, même pour les vacances, donc tu m'enverras pas en mission, donc je ne vais pas dire oui, parce que je ne peux pas dire oui, mais ça ne se fait pas. Et en fait, j'ai compris que tout ça, c'est faux. Dieu nous aime, vraiment. Donc, il ne va pas nous demander de faire quelque chose qu'on n'est pas capable de faire. Il ne va pas nous envoyer à un endroit pour nous laisser nous débrouiller tout seul. Il ne va pas nous demander quelque chose qu'on n'a pas envie non plus. Il va nous demander quand on est prêt, en fait. Donc, ce que j'ai vraiment compris, en fait, je suis sûre que vous le savez déjà tous, mais moi j'ai quand même attendu 40 ans avant de le comprendre pour de vrai, pourtant c'est marqué plein de fois dans la Bible. Alors ce qui me console un peu, c'est que mon papa, qui est pasteur, qui a 70 ans, il était avec moi cette semaine-là aussi, et c'est pareil, il a compris cette semaine-là aussi, donc je me dis, ça va ? J'ai un peu de marge. Et je suis sûre que vous le savez aussi déjà, c'est très très simple. Dieu est amour. On l'a dit plein de fois dans tous les chants de ce matin, c'est juste ça. Voilà, à partir du moment où, maintenant, quand je lis un passage de la Bible où je me dis que ce qui est écrit dedans est en contradiction avec le fait que Dieu nous aime, je me dis, c'est que tu comprends mal. Alors, comme j'ai de la chance, je téléphone à ma grande sœur, en faisant attention aux horaires, parce qu'elle est au Canada, et elle m'explique. Et je fais, ah ouais, c'était évident, en fait. Je sais pas lire. Voilà. Donc, pendant des années, je me suis forgé une petite carapace autour de mon cœur pour me protéger de tout ce qui m'arrivait et que je ne comprenais pas et où je me disais que Dieu est méchant. Et en fait, pendant cette semaine-là, d'avoir eu la possibilité d'être bercée par l'amour de Dieu, puis il a enlevé deux couches, pareil qu'il en reste sept, donc il y a encore un peu de chemin à faire. Mais maintenant, je sais que je peux dire « Oui, Dieu, je veux te suivre, je veux marcher dans les voies que tu as prévues pour moi avec le Saint-Esprit. » Et c'est vrai que dans sa présence, il y a tellement de joie et qu'on ne craint rien tant qu'il est près de nous. Voilà, c'était ce que je voulais partager avec vous. Merci.
Elisabeth, nous avons entendu ton témoignage et ton cheminement. Tu hésitais de suivre Jésus parce que tu avais peur qu'il t'emmène dans des chemins où tu n'avais pas envie. Et donc tu as compris qu'il était amour et qu'il n'allait pas faire des choses contre ta volonté. Donc acceptes-tu aujourd'hui cette confirmation de baptême ?
Oui, je l'accepte.
Alors je te baptise au nom du Père, du Fils et de l'Esprit Saint.
Tout d'abord, bonjour à tous. Voilà, j'ai écrit un tout petit peu quelques textes parce que m'exprimer en public, c'est pas mon truc, quoi. Mais voilà, je ne souhaiterais pas développer les épisodes de mon chemin de vie. Ils ont laissé trop de blessures, de cicatrices. Et on sait tout ce que cela peut entraîner chez l'être humain comme comportement. Là, ici, il y a dans ces assistances des gens qui comptent énormément pour moi, que j'ai eu le plaisir d'apercevoir, d'entrer dans cette salle. Et je voudrais vraiment m'excuser auprès d'eux de ne pas avoir eu le courage, la volonté, parce que j'avais trop peur qu'ils ne comprennent pas, vu qu'ils me connaissent et surtout ils connaissent mes traverses. Simplement, un jour, un homme m'a dit « Tu dois choisir ton camp. » Et je sais très bien qu'on ne peut pas rester entre le bien et le mal, et qu'il faut choisir le bon camp. Je citerai simplement le nom de mon Sauveur Jésus-Christ, à qui chaque instant ne m'a jamais abandonné, et c'est grâce à lui que je me suis accroché à la vie. Je sais que je lui dois tout, mais surtout que je dois m'améliorer et persévérer dans ma foi. Par ce baptême, je déclare publiquement que Jésus est mon sauveur et mon maître, et que je m'engage à le suivre.
Je peux poser tes lunettes là, si tu veux.
Le portable aussi, ils ont été besoin maintenant.
Merci. Jean-Charles, donc on a entendu ton témoignage. Tu acceptes Jésus comme ton sauveur et ton maître ?
Oui, bien sûr.
Et tu t'engages aujourd'hui à le suivre ?
Oui, bien sûr. Aussi.
Alors, dans le nom de Jésus, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.
Bonjour. Donc je m'appelle Théophane Louvet, pour ceux qui ne me connaissent pas. Je mesure 1m93 et j'ai appris récemment que je fais 2 mètres d'envergure. Voilà. Ce que je voulais... ce baptême, pour moi, c'est vraiment une alliance que je veux vivre avec Dieu. Et j'ai vraiment dans mon cœur un peu comme si je me mariais avec Dieu, quoi. Voilà. Donc moi, je viens d'une tribu de 7 enfants. Et je suis le 3e. Et donc j'ai grandi dans un bain de frères et sœurs qui étaient mes amis, mes confidents. Donc il y a eu beaucoup de jeux, beaucoup de spectacles, beaucoup d'inventions. J'étais quelqu'un de plutôt doux, gentil, j'aimais m'intéresser aux autres. quelqu'un d'assez anesthésié aussi. J'avais souvent l'impression d'être dans du coton. Toutes les choses qui arrivaient de l'extérieur venaient un peu atténuer. J'avais pas beaucoup de force de vie. Et je me souviens d'une anecdote, ça arrivait souvent, mais mon petit frère venait, il voulait qu'on fasse du foot ensemble, et du coup moi j'étais dans mes bouquins souvent, et donc il me prenait sur ses épaules, et il m'amenait jusqu'au terrain de foot pour qu'on puisse jouer ensemble. Voilà, donc j'avais une grande soif d'absolu, j'avais vraiment envie de rencontrer Dieu, et puis comme si j'avais envie de trouver un peu la formule de la vie qui me permettrait de, ouais, quelles que soient les circonstances, un peu d'être heureux, tout ça. Et j'étais souvent déçu parce que, en tout cas, la foi, elle ne me donnait pas vraiment ça. Enfin, il y avait des petits moments un peu de pique où je sentais que Dieu était vraiment présent, ou quand on priait en famille, ou voilà. Et puis, parfois, j'étais déçu parce que je voyais que les prières, j'avais l'impression que ça donnait rien. Et du coup, je me disais, cette fois-ci, Dieu a décidé de ne pas me répondre, ou il est absent. Donc, ça me décevait beaucoup, surtout que je mettais beaucoup d'espoir dans lui. Voilà, j'étais pas mal dans la fuite, dans les lectures, dans la nourriture, dans, je sais pas, écouter la radio, des choses comme ça. Et j'avais vraiment besoin de plaire aux autres, donc pas mal dans la séduction. Tout n'est pas négatif, hein, mais voilà, il y avait des choses qui étaient un peu bloquées dans ma vie, et j'avais l'impression de ne pas être vraiment né, à la relecture un peu que je me disais ça, mais comme si j'étais un peu en sommeil, quoi. Et donc un peu dans la suite de ma vie, ça, j'ai fait 2 cycles d'études où j'ai pas fini. Les amis, j'avais du mal à les garder. J'ai été fiancé et puis ça s'est arrêté, voilà. Et puis j'ai eu deux épisodes dépressifs qui m'ont beaucoup marqué, qui ont été vraiment compliqués à vivre, et pas trop de projets structurants, quoi. Donc il y avait beaucoup de comme une vie un peu qui est sente, un peu qui en sommeil. Voilà. Mais j'avais vraiment cette quête là de pouvoir guérir, parce que je sentais que la vie, c'était, ça pouvait pas être que ça, quoi. Là, ça m'a touché le chant là, projet de paix et non de malheur. Et de dire que, en fait, Dieu, vraiment, il veut notre bonheur. Ouais. Et je sentais, surtout, Marie-Liès, je sentais cette parole pour toi aussi. Voilà, donc, je sentais que Dieu avait une volonté que je sois heureux, puis que j'ai une vie heureuse. Et du coup, j'étais vraiment en quête de guérir. J'ai pas mal cherché dans la psycho. J'ai fait pas mal de sessions, des choses qui m'ont aidé, tout ça, mais qui, c'était pas suffisant, quoi. Et puis ensuite, à un moment, je me suis retrouvé dans une communauté en Suisse, où là, des gens ont prié pour moi, et puis il y a eu des manifestations un peu spirituelles. Et je sentais vraiment très fort que c'était, du coup, que mon problème était plus de l'ordre spirituel que il y avait sûrement peut-être une part de psychologique, mais beaucoup de spirituel. Voilà, il y avait des vraies manifestations comme avec des esprits mauvais, quoi. Et déjà, ça a renforcé ma foi, parce que j'ai vu que s'il y avait des esprits mauvais qui existaient, ça voulait sûrement dire que Dieu existait aussi, quoi. Voilà. Et puis j'ai été touché par la foi de ceux qui priaient pour moi. J'ai été dans une recherche, et j'ai dépensé beaucoup d'argent, traversé la France Parfois, je passais 2 jours et demi à voyager pour arriver dans un endroit pour qu'on prie pour moi. Et donc, c'était un peu mon moteur, quoi, de pouvoir être délivré. Et dans ma recherche, j'ai rencontré dans un festival chrétien une fille qui s'appelle Caroline, qui est présente ici, et qui, on a parlé assez vite de cette quête-là que j'avais, et elle me disait qu'elle me croyait, me soutenait là-dedans, me disait qu'elle pensait que oui, effectivement, j'avais besoin de délivrance. Et on a eu pas mal de conversations au téléphone. Et je sentais que ces conversations, elles me nourrissaient, elles me parlaient, donc elle a la foi, et elle me parlait de sa foi, de ce qu'elle, comment ça transformait sa vie. Et moi, je sentais qu'elle vivait vraiment ce qu'elle croyait. Et donc ça me touchait, puis je sentais que j'avais le cœur qui était réchauffé quand je discutais avec elle. Et du coup, ça s'est pas fait en une fois, mais à force de prier avec elle, d'échanger, de me déplacer, on est allé dans plusieurs endroits. Je sens qu'il y a des choses qui sont un peu ouvertes en moi, notamment par rapport à la Bible, où moi je la lisais beaucoup en me disant je pense que c'est bon, mais je me sentais pas tellement touché par la Bible. Et puis il y a un moment, vraiment, mes yeux se sont ouverts et comme si je sentais que ce message qui était dans la Bible, ça s'adressait à moi, quoi. Et pour la première fois, et puis je voyais plein de promesses que Dieu, il a des projets de vie et pas de malheur, qu'il met devant moi la mort et la vie, et puis qu'il veut que je choisisse la vie, quoi. Et je trouvais ça vraiment beau. Et donc voilà, j'ai pu commencer à plus lire la Bible et puis à déclarer les choses qui étaient dans la Bible. Et je sentais, et puis en même temps, le travail de libération qui a continué. Et puis je suis venu dans cette église, Bernard et puis beaucoup d'autres ont prié pour moi. Et je sentais qu'ils avaient envie que j'aille jusqu'au bout. Et ça me touchait aussi de sentir qu'il y a la foi d'autres personnes, la foi de ma famille aussi, qui me portait là-dedans. Et donc j'ai fait une rencontre en plus en profondeur avec Dieu, et petit à petit, il y a des choses qui ont changé dans ma vie, où petit à petit, je suis sorti de mes compensations, j'avais plus besoin de lire autant, ou plus besoin d'écouter la radio à chaque moment où j'étais tout seul. J'avais plus envie de prier. J'avais envie de prier, même, je sais pas, le midi à l'école, pendant ma pause, j'avais envie de prier, de lire la Bible. Et c'était nouveau pour moi. Et puis j'ai vécu une libération là, cet été. Cet été, le 25 juillet, j'ai vraiment vu Dieu à l'œuvre, et Dieu plus fort que les puissances de la mort. Depuis cette libération, même si ça n'a pas forcément été sensible sur le moment, mais il y a vraiment des choses qui ont changé au niveau de... J'avais la tête beaucoup plus claire. Ça fait quelques mois là que je retrouve la mémoire, que j'ai plus des pensées de désespérance comme avant, et je retrouve de l'énergie. Je suis plus anesthésié. Ça a beaucoup changé. Et puis petit à petit, je sors de cette envie de vouloir mériter l'amour de Dieu ou l'amour des autres. Et il y a plus de paix, moins de colère et plus d'amour en moi. Voilà, et pour finir, ce que je voudrais vous dire, que vraiment, du coup, je doutais régulièrement quand même de la bonté de Dieu, et puis là, je me rends compte que vraiment Dieu est bon et qu'il agit. Une parole qui me touche vraiment, et puis que je voulais vous partager, c'est dans les Lamentations de Jérémie, c'est « Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. » Et de pouvoir vraiment me répéter ça et puis me rendre compte que c'est vrai, quelles que soient les circonstances, quel que soit ce qu'on peut voir extérieurement qui ne montre pas forcément cet amour et puis, ou même qui peut montrer un peu le contraire, que ça c'est vraiment vrai quoi, et que c'est pas juste des mots. Voilà, que Dieu ne déçoit jamais. Je vous invite à lui faire confiance. Et est-ce que je peux faire une petite prière? Ouais. Merci mon Dieu pour ton action puissante dans ma vie. Merci parce que rien de ce qui fait nos vies ne t'est étranger. Merci parce que tu m'as tiré de la mort et tu m'as rendu à la vie. Tu m'as donné une vie en abondance. Sois glorifié par ma vie et mon histoire. Merci pour l'histoire d'amour que tu veux vivre avec chacun de nous. Je te confie chacun de nous ce matin, que nous puissions croire que ton bras n'est pas trop court pour venir nous sauver, pour venir nous rétablir dans notre dignité. Amen.
Théophane, nous avons tous suivi ton beau témoignage. Alors, acceptes-tu de suivre Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur?
Oui.
Et crois-tu qu'en sa mort et en sa résurrection, tu es à la vie éternelle?
Oui.
Je vais prier pour lui, après je vais le baptiser. Père, je te rends grâce pour la vie des Théophanes. Merci pour ces moments bénis. Que cette libération soit réelle et qu'elle soit continuelle dans sa vie. Que ton esprit continue son action, son œuvre dans l'intimité avec lui. Théophane, au nom de Jésus, je te baptise, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.
Forcément compris tout le témoignage de Théophane, c'est que Théophane avait des problèmes de possession démoniaque et que nous avons prié pour ordonner à ces démons, ils étaient plusieurs, de sortir de lui afin qu'il soit libre. Voilà, je n'en dirai pas forcément plus, mais c'est juste pour que chacun puisse comprendre de quoi il s'agit. Et lorsque les puissances démoniaques, quand je leur ai demandé quel est leur nom, quel est ton nom, il y avait des réponses de la part principalement de deux hautes autorités, des noms que Théophane ne pouvait pas connaître, parce que pas assez versés bibliquement, mais que nous avions, nous, repéré. Voilà. L'essentiel, c'est qu'il soit délivré. Cette semaine, j'entendais à trois moments différents, même quatre d'ailleurs, un sociologue, un journaliste et un prêtre parler du bonheur et de sociologiquement comment le français voit ou recherche le bonheur. À croire que c'est un sujet qui est préoccupant. Vous connaissez probablement la chanson de Christophe Maé, « Il est où le bonheur ? Il est où ? Il est où ?» On pourrait croire que ce terme est un peu désuet, mais en fait, dans notre société, les hommes, les femmes cherchent le bonheur. Au point que la pub s'est emparée et s'empare de ce sujet d'une manière régulière. Et donc, il y a, entre autres dans la presse, mais pas que, des slogans. Je vais vous en citer. Le bonheur pour vous, c'est une offre spéciale pour ceux qui vont lire le magazine. Et qu'est-ce qu'on nous propose comme bonheur si extraordinaire? on nous propose du pâté à 32 euros au lieu de 37. Sur une photo, il y a un père avec son bébé le bébé est nu. Et le slogan dit « Le vrai bonheur, c'est… » Alors forcément, on pense que c'est le gamin, quoi. Ben non, c'était pour un radiateur. Pour vivre bien, vous devez l'avoir chez vous. Il s'agit de quoi ? Il s'agit d'une Sono, d'une méga chaîne, 430 watts. Je vous prie de croire que ici c'est, je sais pas, 200 peut-être, hein, un peu plus, mais bonjour les voisins, quoi. Si c'est le bonheur pour la personne qui écoute dans son salon, je suis pas sûr que ce soit le bonheur pour les voisins, quoi. Allez, vous allez recevoir gratuitement un appareil électrique pour faire la cuisine. Si vous achetez quoi ? Si vous achetez des produits pour maigrir. Allez, je vais vous en faire une dernière, quoi. Ça change tout. Et on nous propose de changer notre vie avec 5 à 10 grammes de ce produit. De quoi s'agit-il ? Ça change tout. C'est une implantation de cheveux. Je ne parle pas des voitures. Mais en fait, la société essaye de nous vendre du bonheur qui n'en est pas. Et lors de l'interview de ce prêtre à la radio et du sociologue à la télé, j'ai été interpellé par le fait que tous les deux disaient que dans notre société, forcément, on cherche le bonheur un peu, enfin, là où on espère le trouver, en tout cas. Mais c'est des fois n'importe où. Avec des situations pas anodines, parce qu'on cherche au travers du Nouvel Âge, on cherche au travers de religions ésotériques, on cherche auprès de la pratique, disait le prêtre, c'est lui qui disait ça. Les gens cherchent au travers d'une pratique presque effrénée du yoga, mais qui ne satisfait pas l'âme. En fait, nous l'avons entendu un peu avec Théophane, il y a une recherche avec, qui s'accompagne souvent au travers des… Il y a des échecs, et d'échec en échec, les personnes en ont marre, quoi. Est-ce que je vais enfin pouvoir vivre ? J'ai lu quelque part que le plaisir et le bonheur sont deux notions qui portent à confusion. Le plaisir, c'est une forme de satisfaction ponctuelle, fugace, éphémère. C'est de posséder une maison, une voiture, une famille, etc. Le bonheur, quant à lui, est caractérisé par quelque chose qui est durable, qui est stable, et il désigne un bien-être complet du corps et de l'esprit. En fait, la recherche du bonheur implique quelque part qu'il y a dans le cœur de l'homme un vide, une insatisfaction. Cette semaine, toujours pour étayer mon propos, j'ai lu ce que disait un pasteur. Il avait mis une annonce dans la presse pour inviter les gens dans, à venir discuter avec lui. Et puis voilà qu'il voit une superbe voiture de sport rouge s'arrêter devant la toute petite église de la région parisienne, un tout petit local. Et puis il voit une jeune femme élégante, voilà, type et les personnes qui font des de la pub, des trucs de vêtements, je me rappelle, des mannequins, pardon. Alors elle rentre et puis lui il dit bah certainement qu'elle cherche quelque chose. Elle a dû se tromper, elle va me demander. Et puis finalement non, elle lui demande si est-ce qu'on peut parler. Et puis je voudrais pas trahir, mais donc je lis. Je l'ai invitée à s'asseoir, puis son visage s'assombrit et elle se mit à pleurer. J'ai besoin de parler à quelqu'un. J'ai tout ce qu'il me faut, tout ce qu'une femme peut espérer. Mon mari m'aime tellement qu'il ne cesse de me faire des cadeaux. Il m'offre de magnifiques bijoux, des manteaux. Là, il vient de m'acheter cette belle voiture. Mais tous ces cadeaux ne parviennent pas à combler ce vide immense que je ressens en moi. Je suis désespéré. On peut posséder, avoir, et pourtant, le cœur peut rester vide. J'ai l'impression de lire ce que l'Ecclésiaste dans la Bible dit. En fin de compte, dit-il, c'est pas très encourageant, hein, mais... En fin de compte, lui qui a vécu dans l'opulence de toutes sortes, il conclut en disant, en fin de compte, tout est vanité. Ça sert à quoi, tout ça? C'est d'ailleurs le même auteur qui dit que Dieu a implanté au tréfonds de l'être humain le sens de l'éternité, c'est-à-dire la soif de connaître et de vivre avec Dieu. Quelqu'un dit, si vous retirez un poisson de l'eau, il meurt. Si vous déracinez un arbre, il meurt. De la même manière, si une personne est déconnectée de Dieu, il meurt. Parce que Dieu est notre environnement naturel. L'aspiration qui est la nôtre est de rechercher Dieu. Le cœur est vide. Cette réalité est partagée par ceux qui n'entretiennent pas de relation avec Dieu. Je ne parle pas de pratiques religieuses. Il faut faire, il ne faut pas faire. Il s'agit d'une relation personnelle avec Dieu, d'un cœur à cœur. Je lui parle, il me répond. Alors pas toujours, mais quand même. Il y a dans notre société de plus en plus de personnes qui recherchent Dieu. J'étais dans une rencontre pour pasteur en début de mois. J'étais heureux d'apprendre que dans cette église, il y avait 200 personnes qui allaient se faire baptiser avant la fin de l'année, dont trois quarts de jeunes. C'est qu'il y a de la recherche. Il y a de la soif. Et là où, à un moment donné, et je comprends, hein, le carcan, on n'a plus envie de pratique religieuse pour la pratique religieuse parce que celle-ci ne nous satisfait pas. Le Christ, lui, entrant dans notre cœur et dans notre vie, nous satisfait pleinement. Si vous saviez combien je suis enthousiasmé par mon Dieu qui est si enthousiaste. Extraordinaire. Magnifique. Je le dis parfois, je le répète, je le kiffe. Parce qu'il a effectivement changé, révolutionné ma vie et m'a donné de vivre autre chose. il y a une soif. Et dans ce cas-là, et je ne vais pas être long, je vous prie de réfléchir durant cette semaine aux ersatz qui sont les vôtres, sur quoi vous essayez de baser votre vie, mais qui ne produit pas la paix de l'âme, la joie dans votre cœur. Permettez-moi de lire quelques textes bibliques. Dans Ecclésiaste toujours, le bonheur est pour ceux qui aiment Dieu. Heureux l'homme qui marche avec Dieu, il a le bien-être assuré, dit un psaume. Jésus lui-même nous dit, celui qui m'aime et qui vivra avec moi, mon Père l'aimera, nous viendrons à lui, mon Père et moi, nous habiterons chez lui. Waouh ! Ma vie, mon être, comme habitation de Dieu. Ça, c'est un projet qui n'est pas un projet, c'est une réalité. Extraordinaire, formidable. Dieu le Père et le Fils habitent. Pourquoi ? Parce que, à un moment donné, nous avons entendu Dieu frapper à la porte de notre cœur. Jésus qui dit « Toc, 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 je veux rentrer !» Mais il ne va jamais fracasser, il n'est pas Obélix, hein, il ne fracasse pas la porte. Il attend, il dit « Si tu ouvres la porte, ben, je viens manger chez toi et toi, tu mangeras avec moi. » Il s'invite à manger. Mais le repas signifie le temps d'intimité, de partage. Avec l'autre, nous, Français, on aime bien, hein, cette question de repas où on est, où nous sommes les uns avec les autres. En fait, au travers des témoignages, au travers des chants, au travers de cette exhortation, c'est Jésus qui dit « Je frappe à la porte de ton cœur et je voudrais rentrer afin de remplir ton cœur, afin de remplir ta vie. » Je vous invite à la prière.